RCF.
C'est si difficile de comprendre ce qu'est la résurrection. C'est si incroyable que le Christ soit ressuscité, qu'il soit la vie et qu'il le soit pour que nous aussi nous puissions nous relever. Alors chacun de nous, aujourd'hui, maintenant, mais parfois le découragement et l'incrédulité sont plus faciles à suivre et c'est plutôt le tombeau qui nous attire. Alors, il y a dans la Bible une drôle d'histoire, c'est celle d'un homme que ses sœurs avaient enterré et qui sort de son caveau juste après sa rencontre avec Jésus. Ce personnage de la Bible, Lazare, vous l'avez vous aussi réveillé dans votre dernier livre. Père Benoît Tsinetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Paris en mission à Lille, aumônier du département international des scouts et guide de France, et vous venez de publier Lazare, le ravi, aux éditions du Cerf. Lazare, alors c'est un personnage qui va croiser la route de Jésus. En deux mots, quel est le portrait que font les évangiles de cet homme et pourquoi ce nom nous est familier?
Lazare, on sait finalement assez peu de choses de lui dans les évangiles. On sait de lui qu'il avait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, deux sœurs, Marthe et Marie. On sait qu'il habitait avec elles à Béthanie, qui est une petite commune en face de Jérusalem, face au temple. On sait qu'il est mort. En tout cas, il a été réputé être mort après avoir été malade et qu'il a été mis au tombeau. Puis on sait qu'il est ressuscité. Voilà. Après ça, on sait aussi une autre chose de lui qui est assez unique finalement quand on y réfléchit, c'est que c'est la seule personne dans les évangiles dont on nous dit qu'il était l'ami de Jésus. Voilà. Et c'est quand même pas rien d'être l'ami de Jésus. Voilà. C'est saint Jean qui dit ça. Lazare était de l'ami de Jésus. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, on peut tous un peu s'identifier dans ce personnage parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le disciple de Jésus? Sinon celui qui est appelé à être son ami, hein, je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis, voilà, nous dit Jésus. Il le dit aux apôtres et à travers eux, il nous le dit à nous. Et donc Lazare, c'est un peu le visage de chacun d'entre nous qui voulons être amis de Jésus.
Alors Lazare, c'est aussi celui qui va susciter des larmes chez Jésus, ou en tout cas une forte émotion quand Jésus apprendra qu'il est mort. C'est raconté dans saint Jean. Est-ce que c'est là aussi le seul à susciter? Vous dites c'est le seul ami. Est-ce que c'est aussi le seul qui va amener Jésus à être troublé, perturbé, triste?
On pourrait écrire bien des romans et des essais exégétiques sur les larmes de Jésus. Oui, c'est le seul moment où les évangiles nous disent que Jésus pleura. Ils le disent même deux fois. Une première fois quand il arrive à Béthanie et qu'il est témoin de la détresse de la foule qui l'accueille, et une deuxième fois lorsqu'il arrive devant le tombeau de Lazare. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que si on regarde bien le texte de l'évangile de saint Jean, la première fois où Jésus est ému aux larmes, c'est quand il arrive à Béthanie et qu'il dit à la foule « Où l'avez-vous déposé ?» Voilà. Et la foule lui répond lui disant « Viens et vois ». Et chez saint Jean, cette phrase « viens et vois », elle a déjà été employée quelques chapitres plus tôt, au début de l'évangile de Jean, dans un tout autre contexte où ce sont les apôtres qui disent à Jésus « Maître, où demeures-tu ? » Et Jésus les invite à le suivre en leur disant « venez et voyez ». Voilà. Et donc, on peut se demander, par exemple, alors c'est pas dans le livre, hein, parce que je pars pas de ce point de vue-là, mais on peut se demander si les larmes de Jésus à Béthanie, lorsque la foule lui répond « Viens et vois » à sa question « Où l'avez-vous déposé ?» c'est-à-dire « Où demeure-t-il » si les larmes de Jésus, elles ne sont pas dues, en fait, à une forme de tristesse, non pas de la mort de Lazare, mais d'être face à une foule qui l'a écouté, qui l'a suivi, qui a vu ses signes, et qui continue à ne rien comprendre.
Lazare aussi va avoir du mal à comprendre du reste. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit aussi dans votre ouvrage. Alors, vous avez écrit ce livre justement pas pour nous redire ce qui est dans les évangiles, pas non plus pour écrire quelque chose d'historique, mais parce que la rencontre de Lazare avec Jésus va changer le cours de sa mort et de sa vie, parce que Lazare va se relever. Quelle différence simplement vous faites entre ce Lazare qui revit et Jésus qui revit, Jésus qui est ressuscité et ce Lazare qui reprend pied après?
Mais c'est là où la lecture est absolument passionnante des évangiles et des actes des apôtres. C'est qu'on voit bien que ce qui figure dans les évangiles est une annonce de ce qui peut se déployer dans chacun de ceux qui veut être disciple de Jésus. notamment le livre des Actes des Apôtres le démontre, enfin le manifeste de très belle manière. C'est-à-dire que les apôtres, dans les Actes des Apôtres, et donc ce qui arrive à Lazare dans l'Évangile, est un témoignage de ça, quelque part par anticipation. Mais les apôtres vont comprendre, comme tout croyant après eux, que désormais, c'est le Fils, c'est Jésus qui vit en eux. Voilà. Et donc, ce qu'a connu Jésus, ce qu'a fait Jésus, ce par quoi Jésus est passé, le disciple est appelé à y passer lui aussi. Voilà. Non pas par sa seule volonté, par sa seule force, et parce que l'Esprit de Dieu, en lui, l'y aide et l'y pousse. Mmh. Voilà. Et donc, c'est vrai que Lazare, pour le coup, on a ce récit presque par anticipation qui a lieu quelques jours, parce que c'est ce récit dans l'évangile de Jean qui ouvre le récit de la passion de Jésus. C'est presque l'acte, l'introduction à la passion de Jésus. C'est comme si on nous donnait à voir tout ce qui va se redéployer ensuite. Voilà. Mmh. Lazare, il est au tombeau et il sort du tombeau. Voilà. Alors, est-ce que c'est la même résurrection que celle que Jésus vivra à Pâques? Évidemment non. Parce que Lazare, cette résurrection qu'il expérimente, c'est une, on pourrait dire une petite résurrection, parce qu'il va remourir, ouais. Si je puis dire. Donc, alors que Jésus, quand il ressuscite au matin de Pâques, eh bien, il manifeste un chemin qui mène à l'éternité, à une autre, à une transfiguration de l'existence en Dieu. Lazare, il retrouve sa vie d'homme absolument ordinaire. Il ne devient pas immortel au moment où il sort du tombeau. Vous voyez ce que je veux dire?
Et pourtant, pour lui, tout a changé. On va y revenir.
Pour lui, beaucoup, beaucoup, sans doute, a changé. Oui.
Dans ce récit, vous jouez entre à la fois ce que va vivre Lazare et puis son être mort en quelque sorte. Vous nous emmenez dans un endroit qui n'est pas très agréable, c'est celui de la grotte où il fait froid et humide. Et on n'a pas tellement envie d'être avec lui et pourtant dans ce qu'il vit, on est aussi assez proche, il y a une forme de proximité aussi.
Ouais, bah, il fait l'expérience, en fait c'est l'expérience du tombeau. Mmh. Il nous arrive à chacun de faire cette expérience, j'allais dire, paradoxalement, de notre vivant, sentiment, expérience soit d'une profonde dépression en nous-mêmes, soit d'une grande tristesse, d'une grande lassitude, d'un désir d'être seul, d'être retiré de tout, de ne plus en pouvoir de la vie et du monde. Et Lazare, quelque part, dans ce tombeau où il est couché sur cette dalle glacée, eh bien, il est partagé entre des sentiments divers. Ce sentiment de se trouver bien, pour la première fois depuis longtemps, à sa place, où on lui fiche la paix, où il est tranquille. Et puis en même temps, beaucoup de choses dans sa tête, des souvenirs, des mémoires, des blessures, des joies aussi, qui traversent son corps entier, pas simplement son cerveau, mais aussi son cœur, son corps, voilà, qu'ils font frissonner parfois de joie et frissonner de détresse.
Oui, c'est une forme un peu de relecture de sa vie, en fin de compte.
C'est un bon lieu pour relire sa vie, un tombeau, vous ne trouvez pas?
À condition d'en sortir.
Oui, sans en sortir.
Alors, ce personnage, Lazare, il a des idées effectivement noires, hein, et notamment, parmi ses idées noires, il a ses illusions. Il sait, par exemple, qu'il n'a pas été à la hauteur de ce que son père attendait de lui. Il est déçu des ambitions qui étaient portées sur lui. Ça fait partie des petites morts, comme on dit, puisqu'il se trouve dans ce tombeau. Comment répondre à ce qu'on attendait de lui?
Moi, toute cette histoire de Lazare, c'est moi qui ai inventé, si je puis dire ça. J'ai imaginé que Lazare était plutôt dans la haute société de Jérusalem et qu'il fallait expliquer en fait deux paramètres. Le premier, c'est qu'il vit avec ses sœurs, ce qui est tout à fait incongru dans le judaïsme de l'époque. On ne vit pas en célibataire. Et la deuxième chose, c'est que ses sœurs, elles, manifestement, c'est une famille importante, puisqu'à la mort de Lazare, la foule est présente, et notamment beaucoup de notables de Jérusalem. Et donc, j'ai fait de Lazare, dans mon imagination, le fils d'une famille de prêtres du temple de Jérusalem. Et à Jérusalem, à l'époque de Jésus, le temple prenait une place gigantesque, non seulement géographiquement, mais spirituellement, bien sûr. dans la vie quotidienne des Juifs et des habitants, et les grands prêtres du Temple qui se succédaient, chaque famille avait assumé la charge année après année, les grands prêtres du Temple étaient des notables très importants, c'était un peu l'aristocratie juive de Jérusalem, si vous voulez. Et donc en faisant de Lazare le fils unique avec deux sœurs, mais le seul garçon de la fratrie, et donc l'héritier de la charge sacerdotale de son père, vivant de manière agréable, bourgeoise, confortable. Voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 15 ans, de 16 ans, de 18 ans, qui sait qu'il va reprendre cette charge qui est quand même très particulière, alors qu'on est dans une société où on rêve de voyager, comme n'importe quelle génération après lui et avant lui, qu'on rêve d'aller dans les belles villes grecques où la culture est encore très, très importante. On rêve de philosophes, on rêve de théâtre, on rêve de gymnase, on rêve d'amour, on rêve de rencontres, on rêve d'exotisme, quoi. Mmh. Et donc, il est traversé par ça, et la perspective de devenir grand prêtre à Jérusalem est quand même beaucoup moins enthousiasmante que d'aller à Corinthe, à Athènes, à Rome, à Alexandrie, etc. Et donc Lazare, c'est tout le drame de ce jeune homme, de se dire, en fait, ma vie, ça va être quoi? Ça va être quoi? Alors il sent que son père attend beaucoup de lui, en même temps il se dit, mais la foi aussi, qu'est-ce que c'est? En qui est-ce que je crois? C'est pas du tout un incroyant, c'est pas un athée, ça n'existe pas l'athéisme à l'époque, mais c'est quelqu'un qui préfère vivre avant de croire, en fait. Mmh. À l'âge qu'il a, il trouve plus important d'essayer de vivre que d'essayer de croire.
Et tout votre récit va justement nous amener à comprendre ce que c'est que véritablement vivre. Et c'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup, Benoît Tinetti. On vous retrouve demain.